Bienvenue dans ce quatrième chapitre où nous allons ensemble aborder les mots-clés fondamentaux nous permettant de manipuler les structures de contrôle principales du langage C#.
Ouverture de Visual Studio.
Je vous invite ainsi à nouveau à lancer Visual Studio et créer un nouveau projet.
Clique sur Nouveau projet à gauche de la fenêtre.
Nous allons pour l'instant toujours créer une application console.
La fenêtre Nouveau projet s'ouvre.
Je vais la nommer.
Clique sur Application console dans le champ Nom.
Structure de contrôle en C#, sans utiliser de caractères spéciaux bien évidemment. Je vais renommer ma solution Structure de contrôle en C# Solution.
Dans le champ Nom de solution, clique sur OK.
Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous allons rajouter une instruction pour mettre en pause la fermeture de notre programme.
Dans la page « Structure de contrôle en C# solution ».
Tout d'abord, voyons comment déclarer une variable locale à une méthode en C#. Pour cela, nous allons fréquemment utiliser le mot-clé « var ».
Sous la ligne « Static Void Main ».
Ensuite, nous allons le faire suivre par le nom de votre variable. Je vais l'appeler « ma variable ». Et nous allons immédiatement procéder à l'initialisation de cette dernière. Par exemple, 42, un entier donc. Je peux maintenant réutiliser ma variable pour par exemple l'afficher dans la console. console.writeLine de ma variable. Je termine bien entendu ma ligne par un point virgule. Lorsque j'exécute mon programme, 42 s'affiche dans la console et je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour fermer cette dernière.
La console s'ouvre. Le nombre 42 s'y affiche en haut à gauche. La fenêtre disparaît.
Parmi les structures de contrôle les plus usitées, nous retrouvons bien entendu le if.
Le professeur tape if sous la ligne var ma variable.
Qui se présente ainsi. If, parenthèse, ma variable est égale à 42. Vous notez ici la présence de deux signes égaux pour préciser le test d'égalité, tandis qu'un simple égal signifie l'affectation.
Sous la ligne précédente, il écrit console.writeLine.
Ainsi, si ma variable est égale à 42, j'affiche test réussi.
Il ajoute test réussi entre guillemets, entre parenthèses, retour à la ligne.
Sinon,
il écrit console.writeLine.
Test échoué.
Entre guillemets, entre parenthèses. Touche Enter. La console s'ouvre indiquant test réussi.
Mon test réussit donc.
Il ferme la console.
Si je change la valeur de ma variable,
dans la ligne var ma variable égale, 42 devient 51.
Le test se met à échouer.
La console s'ouvre indiquant test échoué.
Si vous souhaitez enchaîner les conditions, vous avez à votre disposition le else if.
Le professeur tape else if entre parenthèses ma variable 2 fois égale 51 et remplace test échoué par.
Donc ce coup-ci, je vais faire deuxième test réussi, que vous pouvez terminer, si vous le souhaitez, par un else, console.writeLine, échoué. Lorsque j'exécute mon programme, le deuxième test est réussi avec succès.
La console s'ouvre, deuxième test réussi, il ferme la fenêtre.
Le C# vous propose des manières condensées d'écrire vos tests. Par exemple, nous retrouvons à l'intérieur du langage le classique opérateur ternaire qui peut se présenter sous cette forme. Je déclare une variable message à laquelle j'affecte une valeur qui sera déterminée par un test, tout cela effectué sur une seule et même ligne. Je commence donc par tester ma variable.
Il écrit var message égale ma variable 2 fois égale à 42 point d'interrogation.
Si ce test est réussi, alors je renvoie test réussi. Si ce test est échoué, je renvoie test échoué. L'opérateur ternaire me permet de réaliser une affectation conditionnée à un test sur une seule et même ligne. Je peux ensuite afficher mon message.
Console.writeLine, message entre parenthèses et point virgule. La console s'ouvre, la fenêtre de droite affiche une session de diagnostic.
Et le tour est joué. En effet, ma variable valait 51. Vous devez maintenant vous poser une question étrange. nous avons signalé que le C# était un langage fortement typé. Or ici, jamais je n'ai eu l'impression de préciser le type de mes variables. Traditionnellement, pour préciser le type d'une de vos variables, vous seriez plutôt tenté de déclarer vos variables en précisant leur type. Par exemple, int ma variable 2 égale 51. Sachez qu'en C#, le fait d'écrire var ma variable égale 51 ou int ma variable égale 51 est strictement identique. En effet, le mot-clé var a un sens bien différent de celui que l'on peut trouver dans le JavaScript. En JavaScript, vous pourriez écrire la chose suivante qui me sera interdite en C#. Var test variable égale 42 et ensuite écrire test variable égale 42 entre double quote, autrement dit utiliser ma variable tour à tour comme un entier ou comme une chaîne de caractères. En C#, cela est bien entendu interdit. Si je mets ma souris au-dessus de ma variable, vous voyez qu'elle est censée être de type entier. Comment ce type a-t-il été déterminé? En fait, en C#, vous ne pouvez pas utiliser le mot-clé var pour déclarer une variable locale si vous n'initialisez pas cette dernière sur la même ligne. Par exemple, si je déclare une variable toto et que je termine cette instruction par un point virgule,
il tape var toto point virgule.
Le programme va m'indiquer une erreur de compilation. En effet, lorsque l'on emploie le mot-clé var, il faut obligatoirement affecter cette variable à une valeur pour que notre compilateur puisse déterminer le type de cette dernière. Vous pourriez vous demander quels sont les différents types que peut prendre une variable. Nous avons vu des variables de type entier, des variables de type string, chaîne de caractères. En existe-t-il d'autres ? En réalité, le C# fait la différence entre deux grandes catégories de types. Le C# fait la différence entre les types valeurs, ce qu'on appelle les value types, et les types références, c'est-à-dire les reference types. La différence entre ces deux types de types est fondamentale lorsque l'on manipule un langage managé. Tous vos types valeurs, vos value types, seront alloués sur la pile, sur le stack, tandis que tous vos reference types seront alloués sur le tas, the heap. Quelle différence cela fait-il? Pour s'en rendre compte, je vous propose de créer une deuxième méthode.
Le professeur va sous la ligne classe programme.
Qui sera appelée par notre méthode main. Sachant que nous n'allons entrer dans le détail de la programmation orientée objet que dans le chapitre suivant, je vous propose de réaliser donc pour l'instant une méthode statique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une instance de la classe dont elle dépend. J'écris donc statique void ma méthode. Et cette méthode, nous allons lui faire prendre deux arguments. Un premier argument de type entier, que nous appellerons
entre parenthèses
entier. Et un deuxième argument de type string que nous appellerons chaîne. En tracolade, nous allons écrire le code de notre méthode. Cette méthode se contentera de modifier la valeur de ces deux paramètres. Par exemple, nous allons spécifier que notre entier prend la valeur 10.
Entier égale 10.
Et que notre chaîne de caractères prend la valeur 10 également.
Chaîne égale 10. Guillemets.
Que se passe-t-il ensuite si nous appelons cette méthode depuis notre méthode main en lui donnant comme paramètre ma variable et message?
Il tape ma méthode et entre parenthèses ma variable virgule message.
Exécutons le programme. Vous remarquez ici,
la console s'ouvre,
que ni la valeur de ma variable ni la valeur de message n'a été modifiée par la méthode maMéthode. Par défaut en C#, lorsque nous passons en paramètre d'une méthode une variable dont le type est un value type, un type valeur, celle-ci se retrouvera copiée dans une nouvelle variable. Autrement dit, l'espace mémoire alloué pour ma variable n'est pas commun à celui alloué pour entier. Par contre, au moment de l'appel de ma méthode, la valeur de ma variable est copiée dans l'espace mémoire de mon entier entier. Pour s'en convaincre, affichons la valeur de entier et de chaîne avant leur modification.
La console se relance.
Vous voyez bien qu'à l'entrée dans la méthode, entier et chaîne sont bien aux valeurs de ma variable et de message. Ceci est donc un passage par copie.
Le professeur ferme la console.
Cependant, si pour diverses raisons, vous voulez pouvoir passer par référence une variable de type valeur, il vous suffit par exemple d'utiliser le mot-clé ref devant votre variable. Il faut bien entendu que votre méthode ait une signature différente précisant qu'elle peut prendre un type valeur par référence. Ainsi, lorsque nous exécutons notre code, ce coup-ci, vous pouvez voir que
la console s'ouvre.
La valeur de ma variable a bien été modifiée. Allons plus en avant maintenant dans notre découverte des structures de contrôle.
Il ferme la console.
Repartons, si vous le voulez bien, d'une méthode main un peu plus propre. Et commençons par nous intéresser aux différentes boucles proposées par le C#. Tout d'abord, nous avons la traditionnelle boucle for utilisant un compteur. Elle s'écrit telle quelle.
FOR. Les chiffres de 0 à 9 s'affichent en colonne dans la console.
À l'exécution, vous voyez donc que notre boucle compte bien de 0 à 9. En C#, vous avez bien entendu les boucles while.
Il tape while, puis true, entre parenthèses.
Qui vous permettent d'exécuter une action tout pendant qu'une condition est vraie. Ainsi, si j'écris while true, je vais à l'intérieur de cette méthode boucler à l'infini sur l'affichage suivant.
À la ligne, il écrit console.writeline et boucle infinie.
Et mon programme ne se terminera donc jamais.
La console s'ouvre.
Comme vous pouvez le constater ici. Autre manière d'enchaîner des tests, nous pouvons utiliser la séquence d'instructions switch case default qui nous permet de comparer la valeur d'une variable à plusieurs constantes, ici par exemple 51, 10 et 42, de réaliser une action appropriée et enfin de spécifier un cas par défaut pour être sûr de pouvoir traiter tous les cas possibles.
Les outils de diagnostic s'activent dans le volet de droite. La console affiche, il s'agissait de 42.
Nous avons maintenant fait le tour des principaux mots-clés nous permettant de contrôler le flux d'exécution de notre code. Je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant pour enfin parler des spécificités du modèle objet proposé par le C#.
Un ovoïde bleu ciel vient se superposer à un premier bleu foncé dans lequel s'inscrivent en lettres blanches le groupe S2I. En petit carré de mosaïque brun, rouge, orange et or, le logo OC s'affiche à l'écran pour annoncer Open Classrooms.